Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, où nous lirons ensemble à partir du verset 1er et jusqu'au verset 20. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il va donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, car je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Voici un texte très étonnant, surtout quand vous lisez la première fois, vous vous demandez, mais qu'est-ce que Jésus fait là? Quelle est la signification de tout ceci? Pourquoi Jésus a-t-il agi ainsi? Pourquoi est-ce ainsi marqué dans la parole de Dieu? Et cependant, il s'agit effectivement de quelque chose qui a une très grande importance, et nous le voyons à plusieurs détails bien précis, au moins 7 détails importants. Déjà, il nous est dit que c'était avant la fête de la Pâque, juste avant, dans le verset 1er, vous avez pu voir cela. Hein. Christ a choisi de commencer la série extraordinaire d'événements qui allaient se produire, c'est-à-dire sa crucifixion, hein, enfin, tout ce qui a précédé la crucifixion, sa crucifixion, sa mort, et ensuite sa résurrection avec toutes les suites. Il a décidé de commencer cela par le lavement de pieds. C'est à ce moment-là que démarre tout le processus et ce n'est pas un hasard. Ensuite, une deuxième chose, c'est que Jésus sait aussi à ce moment-là que son heure est venue. Il le dit encore dans ce verset premier. Et jusqu'à présent, en diverses circonstances, il pouvait dire que son heure n'était pas encore venue. Mais maintenant, pour la première fois, il est écrit que son heure est venue. Et le début de la venue de cette heure, tant attendue, se fait par le lavement de pieds. Troisième chose encore. Jésus, à ce moment-là, est-il marqué, avait aimé les siens qui étaient dans le monde. C'est en quelque sorte le moment du bilan, hein, dans le verset premier toujours. Et ce bilan était positif, ce bilan était sans faute, sans erreur. Jésus avait parfaitement aimé les siens, ceux qui s'étaient confiés en lui et qui l'avaient suivi jusqu'à ce moment. Et aucun d'entre eux, ni personne d'ailleurs, n'aurait pu trouver le moindre défaut à son amour pour eux. Et en faisant le point à ce moment-là, c'est ce qui pouvait être constaté de tous. Une quatrième chose encore, Jésus à ce moment-là, a-t-il écrit, toujours dans ce verset premier, a mis le comble à son amour pour eux. Et comment est-ce qu'il a fait cela? Alors bien sûr, il a fait cela en mourant pour nos péchés. Bien sûr, il a fait cela en ressuscitant pour notre justification. Et bien sûr, il fait cela toujours en demeurant pour nous comme un avocat auprès du Père pour intercéder en notre faveur. Mais souvenons-nous que cela a commencé par le lavement des pieds qui est décrit dans notre passage. Et puis une cinquième chose encore. Il est écrit au verset 2 que le diable avait déjà inspiré à Judas le dessein de livrer Jésus. De livrer Jésus, de le trahir. Et Jésus le savait d'ailleurs, comme nous en avons la preuve dans la suite du passage. Il sait donc que maintenant, les pions sont en place, quelque part, pour la dernière grande partie d'échec, et que le diable va tout faire pour essayer de gagner cette partie. Il ne faut donc pas faire d'erreur. Chaque mouvement des pièces du jeu a son importance, et ceci dès le premier mouvement. Et sachant tout cela, quel va être le premier des mouvements de Jésus? Eh bien, ce premier des mouvements, ça va être de laver les pieds de ses disciples, et même ceux de Judas, qu'il savait pourtant être un traître. Puis la sixième chose aussi, sixième évidence qui nous montre combien c'est important, c'est qu'il est marqué là, au début du verset 3, que Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il était pleinement conscient de posséder toute l'autorité divine. Dans sa plénitude, il lui aurait suffi de concevoir quelque chose pour que cela soit à l'instant. Et il savait très bien, entre autres, qu'il n'avait qu'un mot à dire, qu'il n'avait qu'un souhait à avoir pour qu'immédiatement 12 légions d'anges soient à sa disposition. Par exemple, et quelle ivresse de puissance saisirait un homme qui aurait une telle autorité et en serait conscient si cela était possible. Mais notre Seigneur Jésus, sachant cela, étant conscient de cela, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est marqué, il s'abaisse humblement à laver les pieds de ses disciples, démontrant que pour lui, il y a dans ces gestes si simples une signification à ce moment-là plus importante que quoi que ce soit d'autre. Amen. Et puis une septième chose enfin, à ce moment-là, Jésus savait qu'il était venu de Dieu et qu'il allait au Père, toujours dans ce verset 3. Hein. Il était là encore pleinement conscient de ce qu'il avait accompli, de ce qu'il devait encore accomplir, et de l'heure cruciale où il en était dans cette trajectoire. Hein, le mystère de l'incarnation, celui de sa vie sans péché, celui de sa parfaite communion avec le Père, le mystère de la croix, le mystère de la foi, tout cela était pour lui clair comme le jour, même si c'est hélas pour nous bien souvent loin d'être le cas. Maintenant que Jésus sait exactement où il en est, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il ne va pas se tromper, mais il va laver les pieds de ses disciples. Et ainsi, au travers de ces divers points d'introduction, nous avons pu largement prouver que Jésus agissait très consciemment lorsqu'il lavait les pieds de ses disciples et que cette affaire revêtait pour lui une importance considérable. Et c'est pourquoi nous pourrons développer en une dizaine de points les significations pour nous de ce lavement de pieds. Alors, que dire à ce sujet? Déjà, en premier, première chose, le lavement de pieds est un signe d'amour profond, comme on a pu le voir au verset 1. Donc, Jésus mit le comble à son amour pour eux en faisant cela. Donc, il fait cela il commence à faire cela, mettre le comble à son amour pour eux, en leur lavant les pieds. Et il est juste que cette signification-là soit mise en premier. Et il est vrai que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde connaîtra que nous sommes ses disciples. Donc, le lavement de pieds, c'est un acte d'amour avant toute chose. Et nous avons d'ailleurs d'autres exemples par ailleurs. Pardon. Rappelez-vous, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, la femme pécheresse qui a trempé les pieds de Jésus avec ses larmes, nous est-il écrit, qui les a essuyés avec ses cheveux, puis qui les a oints avec un parfum de grand prix. Or, que va dire Jésus à propos de son acte? Il va dire, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Hein, Elle a beaucoup aimé. Donc c'est un acte, c'est bel et bien un acte d'amour. Hein. Et nous avons aussi l'exemple avec Marie, sœur de Lazare. Hein, ça c'est dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean, verset 1 à 8, qui est là encore à montrer son amour pour Jésus en lui oignant aussi les pieds, en particulier de façon semblable. Et ceci est là pour nous parler de cet amour indispensable entre les croyants, cet amour indispensable entre les croyants à l'image de Christ. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, est-il dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres, est-il dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 11. Amen. Et un tel amour ne pourra se continuer, ne pourra se développer, se poursuivre que dans la vérité. C'est-à-dire qu'entre de véritables croyants, ça on dit que l'amour est aveugle, hein. C'est vrai d'une certaine façon, mais pas d'une autre. Parce que ici, nous voyons Jésus, tout en mettant le comble à son amour pour les siens, il n'est pas aveugle sur leur état. Hein? Donc, en particulier, alors même qu'il est en train de laver les pieds de Judas, il sait exactement ce qui se passe en lui. Il sait exactement où il en est. Et d'ailleurs, notre texte continue par le récit de la trahison de Judas, qui refuse en fait l'amour que Jésus lui a proposé. En fait, je dirais même que dans cette situation, il ne peut plus le supporter. Ce sont comme des charbons ardents qui sont là sur sa tête et désormais, il ne peut plus supporter de rester dans cette position où il a été jusqu'à ce moment-là, une position double. Hein, on le sait. Maintenant, voilà, il se trouve au point, au carrefour, hein, quelque part, ou bien il accepte l'amour de Jésus, il se convertit, il change, si c'est encore possible, ou bien alors, il va faire le mal et hélas, il accomplira ce terrible choix sans tarder plus longtemps et la circonstance aussi le pousse à cela. Alors soyons donc de ceux qui ont un cœur droit, un cœur attaché à la vérité de la parole de Dieu et de ceux qui aiment et pratiquent avec vérité, qui pratiquent la vérité. Alors nous connaîtrons aussi cet amour profond, nous pourrons le partager avec d'autres et ce sera une bénédiction croissante. Amen. Amen. Et puis une deuxième chose maintenant, le lavement de pieds aussi, c'est un acte pratique. C'est ce qu'on voit dans les versets 4 et 5. Hein. Donc déjà, les trois premiers versets, jusque-là, il était question de choses que Jésus savait, hein, des choses qui étaient dans son esprit, des choses qui étaient dans sa tête. Mais voilà que maintenant, Jésus va se mettre à agir. Hein. Et nous avons là la description d'actes d'amour et d'actes d'humiliation. Rappelons-nous. Lorsque le Père de gloire, dans son ciel, a cherché quelqu'un pour accomplir l'œuvre du salut sur la terre, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est marqué ? Bien, le Père a dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» C'est marqué dans l'Épître aux Hébreux. Hein. Et puis, à ce moment-là, c'est le Fils qui a répondu « Me voici, envoie-moi. » Et remarquez ce qui est rajouté. « Tu m'as formé un corps. » Aussi j'ai dit, voici je viens au Père pour faire, voici je viens au Dieu pour faire ta volonté. Hein? Comment Jésus a-t-il accompli la volonté de Dieu? Est-ce simplement en intention? Est-ce simplement en bon désir? Est-ce simplement en esprit? Tout cela bien sûr, mais c'est dans un corps qu'il l'a fait. Si Jésus n'était pas venu dans un corps, nous n'aurions pas pu être sauvés. Si Jésus n'était pas venu dans un corps, il n'aurait pas pu accomplir pleinement la volonté de Dieu. Lorsque Jésus est venu, pour obéir, il l'a fait au travers de son corps. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous parler, vous savez, parce que trop souvent, on se contente de bonnes intentions. Trop souvent, on se contente de bons désirs. Mais Dieu désire que nos membres soient mis à son service, hein, que notre culte soit le fait d'offrir nos membres comme quelque chose par quoi nous voulons obéir à Dieu et par quoi nous voulons servir Dieu et voulons glorifier Dieu. Et l'exemple du Seigneur Jésus est évident aussi de ce point de vue-là. Et c'est pour cela qu'il nous est expliqué une similitude pour nous, lorsqu'il nous est expliqué que ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Et remarquez bien, quand Jésus parle de cela, hein, il dit « ce ne sont pas ceux qui disent ». Ceux qui disent, c'est au pluriel. Mais celui-là seul qui fait, c'est au singulier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir plein de gens qui disent. Des gens qui disent, vous en avez beaucoup, vous savez. L'Écriture nous dit, par exemple, « Beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. » Ah, beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Hein? Hein, vous écoutez les programmes des partis politiques, écoutez toutes ces proclamations, ah, on vous en dit des choses. Hein. Après, la réalité, c'est pas toujours pareil. Hein. Donc, et celui-là seul, donc ça veut dire que c'est une décision personnelle de se consacrer au Seigneur, de lui donner nos membres, de lui donner notre corps, d'agir, d'engager notre corps et notre vie. Voilà le grand point. Hein. La foi sans les œuvres est morte. C'est ce que nous dit l'apôtre Jacques, hein, sans discussion. Et il ajoute, montre-moi ta foi sans les œuvres. Il met au défi l'autre son auditeur. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et je te montrerai la foi par mes œuvres. Ça, c'est le grand point. Alors, c'est vrai que je prenais connaissance l'autre jour de ce témoignage d'une jeune femme qui s'appelait Ami, on va l'appeler comme ça, parce qu'on ne peut pas donner son nom, parce qu'elle vit dans un pays où il est interdit de prêcher l'Évangile. C'est une infirmière diplômée qui travaille dans un hôpital, elle prend un service pédiatrie, elle prend soin des nouveau-nés, et elle est si professionnelle qu'elle se distingue donc par la qualité de son travail. Et beaucoup de femmes dans son entourage sont curieuses d'en savoir plus à son sujet, et elles se sentent poussées à lui poser des questions en privé, et c'est alors qu'elle peut leur parler ouvertement de son sauveur. Hein. Donc voilà, elle fait ça pendant tout un temps, et en raison de son bon travail, vous savez, quand c'est comme ça, ben vous avez des fois, ça arrive, des collègues qui sont jalouses, hein, donc voilà, qui sont venus à l'envier, et l'ont accusé d'avoir volé des médicaments. Et ses supérieurs ne les ont toutefois pas cru. Donc, les autorités de l'hôpital ont fini par découvrir qui était l'instigatrice de ce coup monté. Mais cette mésaventure a amené certaines de ses compagnes de travail, parce qu'elles ont vu aussi la façon dont elles réagissaient, elles, hein, donc, ils l'ont interrogée au sujet de sa foi. Et je dirais que son exemple nous rappelle les paroles de l'apôtre Pierre, donc, qui disait « Bien-aimés, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Amen. Hein? » Laissez Dieu agir en nous, dans notre vie familiale, ou au milieu du travail, ou à l'école, ça produit une incidence sur les gens, vous savez. Ça produit un effet sur eux. Hein. Nous sommes entourés de personnes qui, mine de rien, écoutent nos paroles et regardent notre comportement. Hein. Alors, appuyons-nous sur Dieu et permettons-lui de diriger nos actions et nos pensées. C'est ainsi que nous pourrons influencer des non-croyants et puis ça pourra en amener certains à mettre leur foi au Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est le sacrifice de nos membres qui sera donc un culte raisonnable, un culte agréable à Dieu. Et c'est pour cela qu'il est écrit, un peu plus loin dans ce verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Maintenant, une anecdote qui s'est malheureusement passée il n'y a pas si longtemps et que je vous lis. Le téléphone sonne dans la demeure d'une famille de la haute société de Boston, aux États-Unis donc, hein. C'est leur fils de retour du Vietnam qui téléphone de Californie où il vient d'atterrir. Ses parents sont des gens connus, habitués aux soirées mondaines et aux repas d'apparat. Le jeune homme dit « Je vous passe un coup de fil pour vous annoncer que je compte amener un copain avec moi. » Sa mère répond « Mais bien sûr, mon cher fils, dis-lui de venir passer quelques jours ici. » Son fils continue « Maman, je dois te dire que mon copain a perdu une jambe et un bras au Vietnam et qu'il est complètement défiguré. Il a aussi perdu un œil. » Une longue pause. Puis sa mère répond « C'est bon, amène-le se reposer quelques jours à la maison. » Son fils continue la voix pressante « Mais maman, tu ne comprends pas. Je souhaite qu'il vienne vivre avec nous. » Cette fois, après un long silence, elle commence à chercher des excuses. « Mais comment pourrons-nous l'accepter définitivement? Qu'en penseront nos amis? Et comment pourrons-nous nous occuper de lui? Tu sais, nous avons tellement d'engagement. » Un clic, il vient de raccrocher. Quelques heures plus tard, un autre appel téléphonique. C'est la police de Californie. La mère décroche, une voix lui annonce froidement « Nous avons découvert dans un parc un jeune homme, avec un seul bras, une seule jambe, un seul œil et un visage tout défiguré qui venait de se suicider. Ses papiers d'identité militaire indiquent qu'il s'agissait de votre fils. » Voilà. Faire preuve de compassion, faire preuve d'esprit de service, faire preuve d'humilité, c'est quelque chose qui nous coûte. C'est quelque chose qui coûte, c'est vrai, et ça veut dire qu'il faut arrêter de s'intéresser seulement à nous-mêmes, Hein, ça veut dire qu'il faut arrêter de rechercher à tout prix notre confort quotidien, accepter de donner du temps, accepter de donner beaucoup de temps. Hein, je dirais, le mot compassion, ça vient de deux mots latins qui veulent dire souffrir avec. Souffrir avec. Et c'est tout simplement donc accepter de donner sa vie pour les autres. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 13, c'est « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Hein, » La donner, la partager, la sacrifier ainsi, c'est vrai. Et donc, que l'amour puisse être réel, parce que pratique, et que par ce moyen, une grande gloire puisse revenir au Seigneur aussi. Amen. J'avance et je vois en troisième que lavement de pieds, c'est aussi un acte d'humiliation. On n'a pas beaucoup de mal à comprendre que Jésus s'abaissait et s'humiliait en agissant ainsi. Et pour Pierre, d'ailleurs, il s'agissait de quelque chose de tellement incompréhensible, de quelque chose de tellement choquant, tout d'abord parce qu'il n'avait jamais vu une chose pareille, parce que dans le monde, ce sont les grands, ce sont les puissants qui veulent qu'on leur lave les pieds. Aujourd'hui, on dirait qu'on leur cire les pompes. Mais voici que Jésus agit à l'inverse. Et Jésus agit à l'inverse. Et non seulement cela, mais Pierre n'arrive pas à admettre que ce Jésus qui a guéri de ses mains tant de lépreux, de malades de toutes sortes, ce Jésus qui a ressuscité des morts, qui a opéré des multiplications des pains, ce Jésus qui a vraiment prouvé qu'il était le Fils de Dieu, comme il le disait, et lui n'arrivait pas à admettre que ce grand Seigneur lui lave les pieds. Mais Jésus a voulu lui montrer là, ainsi qu'à nous-mêmes, la valeur de l'humiliation. Parce que, nous laver les pieds les uns aux autres, ça signifie aussi s'humilier devant les autres. Dans 1 Pierre 5, verset 5, il est marqué « Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » S'il faut s'en revêtir, ça veut dire qu'elle ne fait pas partie de nous. Hein. Nos vêtements, on les revêt, ils ne font pas partie de nous. Donc, vous voyez, il faut se revêtir d'humilité. Dans 1 Pierre 5, verset 6, il ajoute « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et comment le ferons-nous, si ce n'est en premier déjà devant nos frères et sœurs? Deux fois dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, au verset 18, ainsi qu'au chapitre 18, au verset 12, il est écrit « L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Hein » Et Philippiens chapitre 2, là c'est l'apôtre Paul qui nous dit, chapitre 2 verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Amen. Et puis lavement de pied, et ça c'est notre quatrième point, c'est aussi un acte d'obéissance implicite. Qu'est-ce qu'on appelle obéissance implicite? Expliquons-le par l'exemple. Hein, nous l'avons vu, Pierre donc, poussé par une indignation sincère, prétend refuser que Jésus lui lave les pieds. Il est bien disposé. Hein. Si vous lui aviez demandé s'il avait le désir de bien faire à ce moment-là, il vous aurait répondu sans hésitation que c'était son plus cher désir et que la preuve était justement la façon dont il réagissait. Voilà. Mais le malheur, c'est que dans toute sa bonne volonté, il se trompe. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va lui demander? Jésus va lui demander d'obéir sans comprendre. Regardez au verset 7, il dit... Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Hein, » Donc, obéir sans comprendre. Il lui dit que l'explication lui sera donnée plus tard, mais qu'en attendant, il faut simplement faire confiance à la parole du Seigneur, à la parole de Jésus. Et dans un premier temps, vous voyez que Pierre va refuser, hein, début du verset 8. Hein, il demeure persuadé que c'est ce qu'il pense qui est juste. Et c'est seulement quand Jésus va le menacer de perdre toute part avec lui que Pierre va être dans la crainte et qu'il va accepter, superficiellement au moins, de changer d'avis. Hein. Mais alors qu'est-ce qui va se passer? Alors il va basculer dans l'autre extrême. Hein. Non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et Jésus va devoir lui expliquer pourquoi il n'est pas nécessaire d'en être ainsi. Pierre va obéir sur le coup, mais il n'aura pas encore vraiment compris. On le voit, ça ne se verra que plus tard. Vous savez combien l'homme, par nature, est lent à comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Ou bien il ne va pas assez loin et il s'obstine, honnêtement, mais stupidement, dans ce refus de faire ce que Jésus lui demande, ou alors, eh bien, il ne se sent plus, il va au-delà de ce que le Seigneur demande, et il tombe dans des extravagances et des inutilités. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore pleinement soumis sa vie au Seigneur. Parce que sa pensée, sa réflexion, sa volonté sont encore autonomes, je veux dire, s'autonomisent par rapport à Christ. Hein ? Et le problème, c'est ça. Donc, extérieurement, ils peuvent paraître obéissants, mais intérieurement, implicitement, ils n'y sont pas. Et ça, c'est une réalité. Et il ne sait pas encore obéir sans comprendre, hein, du moins que c'est la parole de Dieu. Hein, je dis, ben, ce n'est pas d'obéir sans comprendre à n'importe quoi. Hein, nous sommes bien d'accord. C'est de la parole de Dieu qu'il s'agit. Hein, parce qu'on fait confiance à l'auteur de cette parole de Dieu qui est là pour nous. Et lavement de pieds, donc, signifie aussi ceci pour chacune et chacun de nous. Amen. J'avance encore, et mon cinquième point, c'est que lavement de pieds est indispensable aussi pour avoir part avec Jésus et avoir part les uns avec les autres. Donc, verset 8, « Si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Qu'est-ce que ça veut dire avoir part avec Jésus ? Avoir part avec Jésus, bien, ça veut dire déjà avoir et garder communion avec lui. Ça veut dire avoir part aussi à l'accomplissement de son œuvre. Ça veut dire avoir part au royaume des cieux, avoir part à sa mort, et ceci par la mort à nous-mêmes. Hein ? Avoir part aussi à la résurrection et ainsi connaître la vie nouvelle, la vie de résurrection et la puissance de sa résurrection à l'œuvre spécialement dans notre vie. Avoir part aussi, bien sûr, à ses combats, à ses tribulations ici-bas. Et avoir part aussi à la rétribution et aux récompenses. Avoir part, évidemment, au ciel de gloire et avoir part à la royauté avec lui. Amen. Le lavement de pied, l'esprit du lavement de pied est indispensable pour cela. Mais il nous faut aussi avoir conscience de notre besoin des autres à ce niveau-là. Hein, parce qu'il est écrit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres dans le verset 14. J'ai besoin de mes frères et sœurs dans la foi. J'ai besoin de vous, mes frères et sœurs dans la foi. Est-ce que vous avez besoin de moi ? Bon, ça va, vous avez l'air convaincus. Donc, nous avons besoin, frères et sœurs, de l'Assemblée. Nous avons besoin de nos frères et sœurs, et ce texte, parmi bien d'autres, nous le rappelle. Si nous prétendions nous laver les pieds tout seuls dans notre coin, pour je ne sais pas quelle obscure raison, eh bien, nous prouverions simplement que nous avons compris bien peu de choses, et puis nous serions privés de ces bénédictions qui sont accordées par le moyen de ce lavement de pieds dont nous avons pu parler. Soyons donc de ceux qui considèrent l'importance vitale de leurs frères et sœurs, l'importance vitale de l'assemblée dans la foi. Amen. Amen. Et je poursuis, voici ma sixième chose, versets 10 et 11. Le lavement de pied est un signe de purification entière pour le croyant. Jésus lui dit, celui qui est baigné, celui qui est lavé, n'a besoin que de laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Comment le croyant fidèle est-il lavé ? Purifié de manière habituelle et régulière. Déjà, ça se fait par l'eau du baptême. Ils expliquaient que l'eau du baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, donc, par la résurrection d'entre les morts. C'est en 1 Pierre 3, verset 21. Je vais vous lire une petite poésie sur le baptême chrétien. Écoutez bien, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont contenues. Le baptême chrétien est chose magnifique. Quand il est bien compris, quand il est bien vécu. Pour le croyant sérieux, il reste l'acte unique, accompli dans la foi, qui le mène au salut. Il a son fondement dans la Sainte Écriture. Jésus, le Fils de Dieu, s'y est même soumis, pour l'ordonner ensuite à toute créature qui souhaite vraiment aller au paradis. Il est renoncement, il est mort à soi-même, il est tout à la fois fin et commencement. Il est engagement envers ce Dieu qu'on aime, qu'on désire surtout suivre fidèlement. Il est toujours basé sur cette confiance du pécheur repenti devant la vieille croix. Il l'exprime en public par cette obéissance, mélange harmonieux de respect et de joie. Il est, sachons-le bien, proposé à tout être capable de choisir quel Dieu il veut servir. Renonçant au péché, il prend Jésus pour maître, il lui confie passé, présent et avenir. Pour le connaître, il faut accepter l'Évangile et pour s'y conformer de la maturité. Car la voie qu'il prescrit n'est pas vraiment facile. C'est le chemin étroit que le Christ a cité. Le baptême chrétien n'est pas sans conséquence, car il engage Dieu autant que le croyant. Il permet au pécheur de signer l'alliance que le divin Sauveur a scellée de son sang. Amen. Amen. Eh oui, c'est vrai. L'importance. La purification, donc, par le baptême, purification des âmes et des consciences, bien sûr. Hein. Et puis cette purification, elle se fait aussi par le moyen du précieux sang de Jésus. C'est lui qui purifie notre âme de tout péché, qui lave notre conscience des œuvres mortes, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Et cette purification, elle se poursuit aussi par l'eau de la parole de Dieu, hein, donc par laquelle Christ lave les membres de son Église véritable, c'est-à-dire tous ses fidèles qui y sont attentifs et qui y sont obéissants. Et nous voyons ainsi qu'il s'agit d'une purification véritablement continuelle, profonde, et qui nous rend, par la grâce du Seigneur, plus blancs que la neige. Amen. Et voilà le problème maintenant. Le problème, c'est que le croyant, dans sa marche journalière au milieu du monde, tombe dans un péché ou dans un autre. Alors, que va-t-il faire? Bon, nous avons ici, dans notre contexte, nous avons le cas de Judas. Le problème de Judas, c'est qu'il n'est pas tombé dans le péché. Le problème de Judas, c'est qu'il reste dans le péché. C'est qu'il garde ce péché au fond de son cœur. C'est qu'il le justifie. Il se trouve des raisons. Et c'est ça le problème. Hein. Le véritable croyant, lorsqu'il tombe dans le péché, est attristé dans son cœur. Il a une conviction de péché. Il ne veut pas y rester. Il se repent. Il gémit dans son cœur. Sa conscience est triste, elle est bouleversée, jusqu'à ce qu'il soit revenu au Sauveur, et que par le sang précieux de Christ, par la repentance et la foi, il se soit saisi du pardon que le Seigneur accorde aux siens, béni soit son nom, avec aussi le secours pour avoir la victoire sur le mal et donc une pleine purification. Et ceci est aussi valable, je dirais, par la façon dont, sur ce point, nous lavons les pieds de nos frères et sœurs. Nous pouvons aussi laver les pieds de nos frères et sœurs, mais comment allons-nous faire cela, par exemple? Eh bien, l'Épître de Jacques, au chapitre 5, au verset 20, nous en donne un exemple. Il est marqué là, « Si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui a ramené ce pécheur de cette voie où il s'égarait sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Voyez-vous, c'est déjà, et vous retrouvez cela au moins par deux fois dans le livre des Proverbes, où il est dit au chapitre 17, verset 9, par exemple, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. » Ou au chapitre 10, au verset 12, où il est dit « L'amour couvre toutes les fautes. » Voilà. Et c'est ainsi que nous pouvons aussi contribuer à les purifier et, je dirais, à les attacher au Seigneur. Amen. Je poursuis, et voici mon septième point. Le lavant de pied, c'est aussi un signe de maîtrise spirituelle. C'est un signe de seigneurie, quelque part. Hein. Donc là aussi, nous voyons cela, des versets 12 à 14. Après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous appelez le Seigneur et le Maître, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Nous avons vu que c'était une humiliation, c'était un abaissement, mais en réalité, devant Dieu, il s'agit d'une élévation. En réalité, devant Dieu, il s'agit de se mettre et d'être dans une haute position. Il nous faut considérer les choses non pas comme les hommes les voient, parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il faut regarder les choses et les gens comme Dieu les voit. C'est comme ça qu'il faut que nous fassions. Et c'est vrai que l'homme, celui qui agit ainsi, peut paraître humble, il peut paraître même misérable peut-être, mais quand il lave les pieds de ses frères et sœurs, il est lui-même d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Hein? Sa prière va être avantageusement entendue devant le Seigneur. Le Seigneur va avoir les yeux continuellement sur lui afin de le préserver et de le garder. Et il verra la parole de Dieu s'accomplir dans sa vie. L'Ecclésiaste, qui était un homme qui avait eu l'habitude quand même de voir un peu au-delà des apparences, même s'il avait des problèmes par ailleurs, il nous a dit « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes qui marchaient à terre comme des esclaves. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que sur des chevaux, dans des positions de puissance, voir des gens, voilà, et ils ont apparemment une autorité, mais le problème c'est qu'en eux-mêmes ils sont esclaves. ils sont esclaves de vices, ils sont esclaves de traits de caractère, ils sont prisonniers, ils sont esclaves. Tandis que d'autres qui marchent à terre, eux sont libres, et eux sont des princes devant Dieu. Et eux règnent, ils règnent dans la vie par Jésus-Christ seul, voyez-vous. Et c'est cela qu'il nous faut considérer, et c'est cela qui est important, que nous puissions donc être ceux qui, comme le Seigneur, ne sont pas venus pour être servis, mais pour servir et recevoir sa bénédiction et sa grâce particulière qu'il réserve à ceux qui sont des princes devant sa face. Amen. Si je poursuis encore, voici mon huitième point. Nous avons ici un exemple. Dans le verset 15, le Seigneur nous dit « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Quelle est la valeur d'un exemple? C'est d'illustrer une grande règle, un principe important. Hein, donc, et de quel principe s'agit-il? Bien, il s'agit de ce principe de l'amour pratique et vrai, rendu à nos frères et sœurs au nom du Seigneur. Alors vous avez certains qui vont dire « Oh, mais c'est pas possible, Jésus c'est un exemple trop parfait, Jésus c'est un exemple trop élevé, on ne peut pas faire comme Christ, voyons, c'est trop difficile », vont dire cela. Mais vous savez, le Seigneur ne demande pas des choses qui sont trop élevées ou trop difficiles. Cette chose-là dont il est parlé dans notre texte, ce n'était pas une chose qui était difficile à pratiquer, je veux dire dans les faits, dans l'acte. Hein. C'était difficile dans la tête peut-être, oui, certainement, mais pas comme cela. Et Jésus demande des choses toutes simples. Lorsque Jésus nous ordonne quelque chose, il nous donne aussi la capacité de l'accomplir, chaque fois qu'il le fait. Et s'il nous demande parfois des choses qui sont plus compliquées, peut-être dans d'autres domaines, eh bien, il nous donne aussi la force pour les réaliser. Il ne nous demandera pas une chose sans nous donner la capacité et la force pour l'accomplir. Amen. Amen. Et puis, donc, un exemple à suivre absolument. Donc, et je dirais que cet exemple est précieux. Pourquoi ? Parce qu'il contient tous les éléments de cette grande règle de vie du fidèle. Mais ce n'est pas le seul exemple qui existe dans les évangiles. Hein. En effet, il nous faut faire comme Jésus a fait, comme il nous a manifesté et démontré son amour. Et la question se pose, quels exemples de lavement de pieds pour mes frères et sœurs dans la foi y a-t-il dans ma vie? Quelles sont les choses que je fais véritablement pour cela et que je fais dans le même esprit? Chacun doit se poser certainement cette question, ce lavement de pieds. C'est un exemple nécessaire à suivre pour tout vrai croyant. Amen. Et voici mon neuvième et avant-dernier point. Le lavement de pieds est un moyen d'être heureux. Considérez ce que Jésus dit dans ce verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Voilà. Si vous savez ces choses et que vous les gardez en conserve, vous n'êtes pas heureux et vous n'y serez pas. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Remarquez bien que le Seigneur ne dit pas « vous serez peut-être heureux ». Il ne dit pas non plus « vous serez heureux ». Il dit « vous êtes heureux ». À partir du moment où vous faites cela, eh bien le Seigneur vous dit que vous êtes heureux. Il va mettre son bonheur en vous. Et si vous les pratiquez, parce que pratiquer quelque chose, vous savez ce que ça veut dire. Pratiquer un sport, ça veut dire qu'on va régulièrement à l'entraînement, qu'on va au match, qu'on va, etc. Donc, c'est un suivi, voyez-vous. Et si on pratique donc cela, eh bien ça veut dire que le bonheur sera là et réel dans notre vie tout autant et aussi longtemps qu'on le pratiquera. Amen. Voici sa promesse, voici son assurance. Vous savez, c'est la réponse à la grande question du monde. Hein. Ah, le monde se pose la question, qui nous fera voir le bonheur? Les hommes de cette terre, ils veulent être heureux. Et vous voyez, le temps, les moyens, le travail, l'ingéniosité qu'ils dépensent pour ne pas y arriver. Mais quand on agit, suivant notre passage, eh bien, quelque part, on est heureux gratuitement. Et voilà qui est à la fois simple, sans prix, comme toutes les choses véritablement précieuses dans ce monde. Oui, Dieu bénit ceux qui agissent ainsi de son vrai bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Et puis l'avant de pied, c'est aussi un bon moyen de recevoir celui que Dieu a envoyé. Et ça nous amène à notre verset 20. Donc, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quand on est dans cette bonne attitude, alors on peut recevoir le Seigneur d'une façon nouvelle. Je ne sais pas comment vous avez reçu chacune et chacun d'entre vous le Seigneur dans votre cœur aujourd'hui. Je ne sais pas où vous en êtes. Vous savez, on peut recevoir le Seigneur de plusieurs, je dirais, dans plusieurs dimensions, voilà. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre nous, j'espère, beaucoup d'entre nous, j'aimerais bien la totalité, qui a reçu Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur déjà. Hein? Donc ça, c'est déjà primordial, c'est déjà basique, c'est fondamental. Mais après, il est possible d'avoir plus, il est possible d'avoir mieux. Hein? Lorsqu'il a dit, par exemple, « Portes, élevez-vous linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Recevoir Jésus comme le roi de gloire de notre vie, alléluia. Alors ça nécessite un esprit de louange, ça nécessite un esprit d'adoration qui élève et qui élargit les portes d'entrée de notre cœur, voyez-vous. Et Dieu est celui qui veut se révéler à nous. Dieu est celui qui veut entrer en nous. Donc déjà, comme cela. Et le lavement de pieds, c'est un moyen aussi de recevoir le Seigneur mieux qu'on ne l'a reçu jusqu'à présent. Ça, c'est déjà lui, déjà, ça le concerne lui. Et puis, recevoir qui encore ? Eh bien, recevoir de nouvelles âmes qui s'approchent du Seigneur. Lorsque vous recevez de nouvelles âmes, lorsque vous allez vers ces personnes, lorsque vous prenez connaissance d'elles, que vous vous intéressez à elles, que vous leur manifestez ainsi votre intérêt, sans attendre qu'elles vous donnent forcément quelque chose en retour, voilà encore. Cet état d'esprit, ça vous permet aussi de les recevoir. Amen. Et puis recevoir aussi, qui encore ? Les témoins, les serviteurs du Seigneur. Hein ? Donc là aussi recevoir ceux dont les pieds vont servir à annoncer la bonne nouvelle et de l'évangile de paix. Et en particulier, ben oui, va laver leurs pieds parce qu'il nous a dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent cet évangile, de ceux qui témoignent ainsi. Et c'est aussi pour cela d'ailleurs que Jésus a lavé les pieds de ses disciples en prévision quelque part, parce qu'il savait qu'ils allaient proclamer cet évangile grâce à leurs pieds. Donc, les recevoir avec un amour profond, avec des actes, avec humiliation, avec communion, par l'exemple de Christ. Et combien le Seigneur réalise et réalisera ses promesses. Béni soit son nom. Amen. Et en conclusion de tout ceci, eh bien, rappelons l'importance que le Seigneur a attachée à cet acte, donc, et à sa signification. Et ça, c'est vraiment très important, par conséquent, pour nous aussi. Et puis, rappelons les grands appels que le Seigneur nous adresse au travers de cela. Il nous appelle à un amour profond. Hein. C'est un signe aussi d'amour pratique, comme nous l'avons vu par les actes. Un signe d'amour qui s'humilie. Un signe d'amour obéissant à la parole de Dieu. Un signe d'amour fraternel ardent. Et puis, le signe d'un amour qui est mûr, qui est adulte, je dirais, qui est majeur. Hein. Et puis, c'est le signe d'un amour qui accueille. Que le Seigneur nous aide à bien serrer ces choses dans notre cœur et à les mettre en œuvre avec son secours, aujourd'hui et dans toute la suite de notre vie. Béni soit son nom. Amen. Te remercions, Seigneur, et nous te bénissons, parce que tout ce que tu as fait et tout ce que tu as dit est parfait. Et que cela est extrêmement bon pour notre salut, pour notre édification, pour notre avancement dans tes voies, notre avancement dans la foi, pour notre croissance dans l'amour, pour la manière dont nous pouvons pouvoir saisir encore les choses de ta gloire, les choses de ton amour. Merci notre Dieu. Et béni sois-tu Jésus, parce que tu veux encore fortifier et soutenir chacune et chacun d'entre nous pour qu'il puisse effectivement en être ainsi dans nos existences et dans nos vies. Sois glorifié, sois béni mon Seigneur et mon Roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons plusieurs annonces. Déjà, je rappelle la réunion de prière, donc c'est mercredi à 20h15. Ceux qui ont des questions bibliques, donc on a une séance de questions-réponses, c'est le vendredi à 19h15. Et à la suite, nous avons la réunion d'évangélisation le vendredi à 20h15. L'évangélisation dans les villages se tient le samedi, donc rendez-vous pour cela ici à 14h30. Et je veux rappeler que les enfants d'âge primaire, ben écoutez, il faut qu'ils portent tous un masque aux réunions, hein, tous ceux qui sont au-dessus de la maternelle, ben, il faut que ce soit comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous renouvelle, vous soutienne.